Il est 8h.
L'idée de départ, c'est de pouvoir faire ça n'importe où, sans équipement spécialisé. La réaction elle-même est très rapide. Pour pouvoir la détecter, en fait, il faut 1 heure.
Une goutte de sang prélevée au bout du doigt, un nouveau type de test sérologique très rapide et bon marché, moins d'un centime d'euro, pour savoir si vous avez eu le Covid au cours des derniers mois. Dans ce journal, le procès aujourd'hui de l'homme qui avait foncé en voiture sur la terrasse d'une pizzeria en Seine-et-Marne en 2017. Et puis, elle n'avait pas attendu la pandémie et ses bouleversements. Des dizaines de grandes entreprises se sont interrogées sur leur avenir. Quelle est leur raison d'être? Une phrase, une devise, un cadre stimulant pour agir, c'est le dossier d'Europe 1. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. On évoquera bien sûr ses dossiers, dont le télétravail en cette période, mais c'est aussi la première fois qu'elle revient en studio et qu'on l'entendra après son hospitalisation due à la Covid. Rendez-vous à 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal, oui. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour François Geffrier.
Bonjour. Quel coup d'accélérateur aura été donné à la recherche? Des vaccins trouvés en 6 mois, des dizaines de molécules testées pour traiter les malades, des centaines d'études scientifiques, mais aussi des innovations dans le dépistage et le suivi du virus. En plus des tests virologiques qui vous disent que vous êtes porteur de la maladie, il y a depuis un an des tests sérologiques. Cela traque la présence d'anticorps dans l'organisme, révélant que vous avez eu le Covid à un moment donné. Mais ce type de dépistage nécessitait jusqu'à présent une prise de sang en laboratoire.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Des chercheurs de l'INSERM ont mis au point un nouveau test sérologique qui était extrêmement peu coûteux.
Exactement, puisque le réactif coûte moins d'un centime d'euro par test et il a des performances très proches des sérologies en laboratoire. Ce test est aussi ultra simple d'utilisation, explique son concepteur Étienne Joly, chercheur INSERM au CNRS de Toulouse, puisqu'il suffit de mélanger sur une plaque en plastique avec des puits, donc des petits creux, une goutte de sang prélevée au bout du doigt avec un peu de réactif. Pas besoin de laboratoire donc, c'est la façon dont la goutte de sang coagule sur la plaquette qui indique si on est porteur d'anticorps contre le Covid ou pas.
L'idée de départ, c'est de pouvoir faire ça n'importe où, sans équipement spécialisé. Donc les globules rouges, au départ, ils vont être en suspension dans les petits puits de la plaque. Et puis la gravité va faire qu'ils vont tomber au fond du puits. La réaction elle-même est très rapide. Pour pouvoir la détecter, en fait, il faut 1 heure.
Dans l'immédiat, ce test pourrait aider les chercheurs à suivre la propagation de l'épidémie partout dans le monde, avec des prélèvements à grande échelle, même dans les zones reculées. Seul bémol, sa diffusion reste pour l'instant limitée aux instituts de recherche, en attendant des essais cliniques complémentaires.
Anne Le Gall.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. C'est bien, on parle en même temps.
Coordonnée.
Exactement. Pour l'heure, avec le pic de la deuxième vague qui est dépassé et plus de 90% des lits de réanimation en France qui sont occupés, toutes maladies confondues, la pression est sur les épaules du président. Nous sommes mardi, à la veille donc, d'un nouveau conseil de défense sanitaire.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Au sein de l'exécutif, le débat entre les pros et les anti-confinements s'intensifie.
Oui, deux lignes très différentes. D'abord, celle défendue par le Premier ministre Jean Castex et par le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour eux, la situation n'est plus tenable. Un conseiller inquiet explique « On joue avec le feu, les Français ne nous pardonneront jamais si on voit à la télévision un médecin qui explique faire le tri entre les patients à soigner ». Un autre conclut « On ne comprend plus la stratégie de ne pas reconfiner ». Et puis, de l'autre côté, la ligne d'Emmanuel Macron, celle du statu quo. Le président veut tout tenter pour éviter de reconfiner le pays. Un proche explique que cette semaine sera la confirmation que la stratégie de ne pas céder est la bonne et même que nous sommes certainement en train de franchir le pic de la troisième vague. Faisant remarquer que la France recevra dans les prochains jours 3 millions de doses de vaccins, ce proche avance que nous aurons dépassé l'objectif des 10 millions de vaccinations avant la mi-avril. S'il est conscient que cette position est très difficile à tenir politiquement, Emmanuel Macron, qui n'avait pas caché que les prochaines semaines seraient difficiles, ne veut donc pas changer le cap qu'il s'était fixé, toujours persuadé qu'il peut encore gagner son pari.
Oui, Emmanuel Macron qui signe avec Angela Merkel, Boris Johnson et une vingtaine d'autres dirigeants une tribune dans le journal Le Monde et plusieurs publications étrangères. Un appel à un traité international sur les pandémies pour qu'à l'avenir, les systèmes d'alerte, la recherche, la production de vaccins et d'équipements de protection fonctionnent mieux.
Revenons à la France avec ces chiffres quotidiens qui deviennent parfois un peu abstraits.
Oui, pourtant, ce sont bien 95 000 personnes qui ont succombé au Covid dans notre pays. Mais au-delà de ce bilan, l'Institut National de la Statistique, l'INSEE, a synthétisé tous les chiffres de l'année 2020. Romain Oquet, la mortalité a bondi et la comparaison est même historique.
Oui, c'est du jamais vu depuis 1949. À l'époque, un autre virus, la grippe italienne, ravage la France. Plus 60 000 morts en un an. Avec le Covid, c'est presque autant. En 2020, la mortalité a augmenté de 9,1% et l'espérance de vie à la naissance a reculé de 6 mois. C'est plus qu'en 2003, été de la canicule. Bien plus aussi que lors des dernières grippes saisonnières, même les plus sévères. Ce surcroît de décès concerne surtout les plus de 70 ans et les hommes plus fragiles face au Covid. Cette étude de l'INSEE révèle aussi une France coupée en deux par le virus. Si l'Ouest est relativement épargné, l'épidémie tue davantage en Île-de-France, dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. En Europe, la France reste toutefois dans la moyenne, derrière ses voisins, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, où la hausse de la mortalité a été beaucoup plus forte.
Romain Oquet.
8h05 sur Europe 1. Un procès très douloureux s'ouvre aujourd'hui, 4 ans après cette soirée du mois d'août 2017 où une voiture avait foncé sur la terrasse bondée d'une pizzeria en Seine-et-Marne.
Oui, des dizaines de blessés et une adolescente de 13 ans qui était morte sur le coup. Sa maman, Betty, avait alors témoigné en exclusivité au micro d'Europe 1.
On a entendu les grincements des pneus. Je me suis retournée, j'ai vu ce véhicule foncer sur nous. J'ai pas eu le temps de réagir, j'ai juste senti le coup dans le dos. Et là, je regarde autour de moi. La première personne que j'ai vue, c'était ma fille, qui était juste à la droite de la voiture, sur le ventre. J'ai senti qu'elle était partie. J'ai dit, on est victime d'un attentat. Il avait le sourire aux lèvres. Je peux pas oublier ce visage satisfait. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Il a tué notre fille.
Témoignage très fort qu'avait recueilli Pierre de Cossette.
Bonjour Justin Morin.
Bonjour.
Vous allez suivre ce procès pour Europe 1, Justin. Aujourd'hui, cette mère de famille, dans quel état d'esprit est-elle ?
Eh bien, il n'a pas changé. Elle veut comprendre pourquoi un homme se retrouve à foncer sur des inconnus, à foncer sur cette pizzeria dont la terrasse était particulièrement appréciée et fréquentée les soirs d'été. Avait-il l'intention de faire un maximum de victimes ? Dans quel but ? Le conducteur se dit prêt à répondre, autant qu'il le pourra, mais il évoque des trous de mémoire qui l'empêchent de retracer le déroulé précis des faits. C'est ce que nous a affirmé son avocat, Maître Emmanuel Giordana.
Il est parfaitement conscient des attentes des familles des victimes, avec une limite, c'est qu'il était dans un état de grand de confusion mentale et qu'il ne sera pas forcément en mesure d'apporter toutes les explications que les parties civiles attendent.
Aujourd'hui, l'accusé est suivi sur le plan psychiatrique, il est stabilisé, mais à l'époque, il se sentait menacé et poursuivi. Lors de l'enquête, il a aussi fait part de son état haineux et dépressif, mais il a lui-même parlé d'un acte diabolique et monstrueux pour lequel il se dit plein de remords.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. En bref, la proposition de loi sécurité globale qui avait entraîné manifestations et critiques d'associations de journalistes, les députés et les sénateurs sont parvenus à une version finale du texte. Le délit de provocation à l'identification sera bien créé, mais sans toucher à la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Vous restez avec nous et posez-vous cette question. Tiens, votre entreprise a-t-elle une raison d'être ?
Oui, plus qu'un effet de mode. De nombreuses sociétés se définissent par une phrase forcément positive.
A tout de suite sur Europe 1, 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est une entreprise dont 3 employés sur 4 sont des hommes. Volvo va offrir un congé parental de 6 mois à ses 40 000 employés dans le monde, y compris en Chine ou aux États-Unis. 80% du salaire sera versé sur 24 semaines. Rappelons qu'en France, le congé paternité sera de 4 semaines à partir du 1er juillet. Alors, Volvo reconnaît qu'il s'agit d'attirer les talents, mais plus généralement, le constructeur affirme suivre une philosophie, rendre plus facile la vie de ses clients et salariés.
En France, d'autres groupes revendiquent des valeurs et ils sont de plus en plus nombreux à inscrire leur raison d'être dans leur statut. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour à tous.
Cette raison d'être, c'est une phrase qui résume leur ADN.
C'est ça, c'est une phrase qui, malgré ses allures de slogan, donne un cadre d'action à l'entreprise, souvent avec une dimension environnementale et sociale. Le concept a émergé en France en 2019 grâce à la loi Pacte et selon une estimation de Bercy, on compte aujourd'hui entre 150 et 170 entreprises qui ont sauté le pas. Alors évidemment, cette phrase n'a rien de coercitif, mais elle est en quelque sorte gravée dans le marbre. Il faut donc bien la choisir, peser chaque mot. Dans le cas de la RATP, dernière en date à avoir dévoilé sa raison d'être, ça représente un an de travail en équipe, explique Sophie Mazoué, directrice du développement durable.
On a pu consulter plus de 200 salariés. On a eu 138 000 contributions sur la plateforme. On a bien sûr consulté nos parties prenantes, nos organisations syndicales, notre conseil d'administration. Donc elle nous ressemble vraiment, cette raison d'être.
On entend tout le travail préparatoire qu'il faut faire. Élise, ça donne quoi au final ?
Je vous lis un extrait hein, parce qu'elle est plutôt longue, celle de la RATP. Fort d'une expérience centenaire et d'un savoir-faire unique, le groupe RATP s'engage chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Vous noterez le jeu de mots. Reste à le concrétiser, explique Charles de Bestegui du cabinet de conseil NOCOM, qui a notamment travaillé aux raisons d'être de Société Générale, Garnier ou encore Air France.
Toute l'idée, c'est véritablement de faire en sorte que ce soit quelque chose qui se raccroche à la stratégie de l'entreprise, qui va guider en fait des choix un peu de long terme de l'entreprise. Ça l'oblige aussi parfois à renoncer à certaines choses, de dire aussi en particulier à l'interne ce qui ne changera jamais dans l'entreprise. Ça, c'est assez fondamental.
Mais on a des exemples concrets hein, de cette mise en pratique de la raison d'être. Élise, ça a des effets concrets ?
Absolument. Prenez Danone. Depuis 2005, sa raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation. Et pour y coller, l'entreprise s'est séparée de plusieurs de ses activités, dans la bière, le biscuit apéritif ou encore le goûter. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut que le reste suive, dit Bertrand Valorgue, professeur de stratégie et gouvernance des entreprises à l'université Clermont-Auvergne.
Il faut qu'on soit en capacité demain d'évaluer ces entreprises sur des critères qui sont plus larges que des critères financiers et boursiers. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a une raison d'être, il faut qu'on l'évalue et qu'on mesure si oui ou non elle répond aux ambitions qu'elle s'est données. Parce qu'elle fait autre chose. Donc elle doit aussi être évaluée sur cette performance extra-financière.
Voilà, et ça pourrait même permettre de redorer le blason de certaines entreprises dans des secteurs en pleine crise de confiance, l'assurance par exemple.
Dossier signé Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Merci Élise.
Et l'une des raisons d'être de certains d'entre nous depuis un an, eh bien ce sont les séries télé.
Toujours triste qu'elle soit finie, celle-ci.
Celle-ci, c'est le générique de Game of Thrones, hein, univers signé du romancier George Raymond Richard Martin. Si vous êtes fan comme Mathieu et donc orphelin depuis la diffusion des ultimes épisodes en 2019, soyez patient. L'auteur est de nouveau au travail. Contrat de 5 ans signé avec la chaîne HBO pour de nouvelles aventures dans le monde de Westeros, 300 ans plus tôt. On n'a pas fini de voir des dragons.
Merci beaucoup François Geffrier, ce journal qui termine avec des dragons. Que demander de plus ? 8h13 sur Europe 1. Dans quelques toutes petites secondes, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, au micro de Sonia Mabou.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Belliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Nous allons bien sûr évoquer les dossiers importants que vous portez en tant que ministre du Travail, mais tout d'abord, après avoir témoigné dans Le Parisien, c'est la première fois que l'on vous entend, que l'on vous retrouve dans un studio suite à votre hospitalisation. Vous avez malheureusement été infectée par le variant sud-africain. Comment allez-vous aujourd'hui ?
Écoutez, ça va mieux, hein. Je vous remercie. Je pense que je vais avoir besoin de temps pour retrouver ma condition physique d'avant. Et moi, je voudrais dire à ceux qui pensent que ce virus, finalement, c'est pas si grave, que cette maladie, elle vous laisse pas indemne. Et je pense que, comme beaucoup de Français qui ont été touchés par le virus, j'ai été très secouée, très secouée.
Vous le dites, hein, comme de très nombreux Français qui luttent en ce moment. Vous êtes passé par des moments difficiles. Vous avez même dit angoissant. Qu'est-ce qui a été le plus angoissant ?
Écoutez, ce qui est angoissant, c'est que les soignants vous le disent, hein, finalement, chacun réagit à sa façon. Donc, il est imprévisible, ce virus. Pour moi, il a touché les poumons, donc vous avez une gêne respiratoire. Et puis, à un moment donné, j'arrivais plus à m'alimenter ou à boire. Et à un moment, on se dit, mais tout se détraque, est-ce qu'on va s'en sortir ?
Comment vous avez été prise en charge, Madame Borne ? Est-ce qu'on vous a administré un traitement particulier une fois hospitalisée ?
Non, je pense que j'ai eu le traitement de tout le monde. Hein. Moi, j'ai été placée sous surveillance médicale parce que j'ai une partie des poumons qui est affectée par le virus. Et puis, comme je vous dis, j'arrivais plus à manger et à boire. Donc, j'ai été perfusée. Et puis, ponctuellement, j'ai été aussi oxygénée. Donc, je pense que c'est le traitement de tout le monde.
Et vous ne savez toujours pas comment vous avez pu contracter ce variant sud-africain qui, rappelons-le, est quand même extrêmement rare, et notamment en Île-de-France.
Je vous confirme que je ne sais pas.
Malgré les précautions que vous prenez, comme beaucoup de Français.
Voilà, je peux vous dire que je fais très attention. Moi, j'en retiens, et je pense que je voudrais aussi le dire à vos auditeurs, que plus on peut réduire les interactions, et mieux ça vaut, puisque manifestement, même quand on fait attention, bah, y a forcément des moments où on a été moins vigilant et où on peut attraper le virus.
Alors on pense bien sûr à tous ceux qui luttent en ce moment contre l'épidémie, dont aussi votre collègue Roselyne Bachelot, des médecins, des chefs de réanimation. Elisabeth Borne demande un confinement strict, évoquant un tri entre les patients. Vous n'avez pas vécu cela, parce que c'est malheureusement peut-être un scénario noir, mais vous avez vu aujourd'hui cette tension hospitalière, ce dévouement des soignants au quotidien ?
Moi, je voudrais vraiment rendre hommage aux soignants, enfin, vraiment leur dire toute ma reconnaissance et mon admiration sur la façon dont ils m'ont accompagné, mais la façon dont ils accompagnent les Français depuis un an. Moi, j'entends leur inquiétude face au risque d'avoir effectivement une vague très forte de cette épidémie. Je voudrais leur dire que vraiment, le président de la République, le gouvernement est très attentif à la situation et qu'on n'hésitera pas.
Mais il demande plus. Il
on n'hésitera pas, si la situation le nécessite, à prendre des mesures plus restrictives pour casser la dynamique de l'épidémie et pour protéger aussi nos hôpitaux et nos soignants.
Bien sûr, c'est intéressant d'avoir votre double regard, à la fois de ministre au sein de l'action, mais aussi vous êtes passé par cela. Est-ce que c'est du temps perdu aujourd'hui quand le président justement se laisse du temps sur un éventuel confinement strict et global ?
Mais vous savez, il y a aussi des conséquences catastrophiques d'un confinement. Il faut avoir en tête l'impact que ça peut avoir pour nos enfants, par exemple, quand ils ne peuvent plus aller à l'école, l'impact que ça peut avoir pour notre économie, pour nos emplois. Donc il faut trouver le meilleur équilibre, mais je peux vous dire que vraiment le président de la République et le gouvernement sont évidemment très attentifs à ce qu'on ne soit pas débordé par cette épidémie et qu'on prendra les mesures qui sont nécessaires en fonction de la situation.
Vous avez parlé tout à l'heure de limiter les interactions sociales, Elisabeth Borne, attendant, vous appelez à renforcer le télétravail avec désormais des contrôles et des sanctions pour les entreprises réticentes. Mais pour quel impact ? Les entreprises, elles ne l'appliquent pas, en tout cas certaines, et une majorité peut-être ne l'appliquent pas aujourd'hui de manière pérenne.
Alors vraiment, je voudrais dire plus que jamais que j'invite tous ceux qui le peuvent à être en télétravail. Oui. C'est une façon d'éviter de se contaminer.
Mais inciter ne suffit pas.
Mais on n'est pas dans l'incitation. Moi, je veux être très clair, c'est une obligation. C'est une obligation. Il y a une obligation de l'employeur de protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète de cette obligation, c'est ce qui est inscrit dans le protocole sanitaire en entreprise. Il faut faire du télétravail dès que c'est possible. Il y a beaucoup d'interventions des services de mon ministère, notamment de l'inspection du travail, 26 000 interventions depuis le début de l'année. D'abord pour accompagner, pour conseiller les entreprises, mais aussi pour les contrôler et pour les sanctionner. Donc je le redis, c'est une obligation de recourir.
Qu'on comprenne bien, madame la ministre, c'est une obligation, mais ce n'est pas dans une ordonnance. Ce n'est pas écrit noir sur blanc et ce n'a pas un caractère obligatoire via une ordonnance aujourd'hui.
En fait, le Code du travail oblige l'employeur à protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète, c'est ces règles qui sont dans le protocole sanitaire en entreprise qui demandent à l'employeur, aux salariés, de faire, dès que c'est possible, du télétravail.
Alors désormais, dans les écoles, les classes ferment au premier cas de contamination détectée. Ce sont d'ailleurs des fermetures en cascade. Et les parents, est-ce qu'ils pourront donc bénéficier d'arrêts de travail pour garder leurs enfants et sous quelles conditions ?
Alors, les parents, ils peuvent bénéficier d'activités partielles. Si la classe de votre enfant est fermée, vous pouvez demander à votre employeur à bénéficier d'activités partielles. Donc, votre salaire est pris en charge à hauteur de 84%. Vous avez un reste à charge pour l'entreprise de 15%. Ça, c'est le cas si votre enfant a moins de 16 ans et si vous ne pouvez pas télétravailler.
Donc moins de 16 ans et si on ne peut pas télétravailler. Ça, c'est les deux conditions sine qua non.
Absolument. Et donc, voilà, ce dispositif, il est en place. Donc, ceux qui sont effectivement en difficulté parce que la classe de leur enfant est fermée peuvent le demander à leur employeur.
Et vous allez être amené à l'élargir, parce que là, les fermetures de classe, c'est assez incroyable. Ça se multiplie sur le territoire, et notamment en Île-de-France.
Effectivement, on applique maintenant une règle très stricte. Dès qu'il y a un cas, la classe ferme. Et donc, la conséquence, c'est effectivement qu'il va y avoir des parents qui vont devoir rester chez eux pour garder leur enfant, qui ne peuvent pas nécessairement télétravailler et donc qui peuvent être placés en activité partielle.
Mais franchement, ça ne serait pas plus lisible s'il y avait une fermeture globale des écoles avant les vacances ?
Bah, vous savez, d'abord qu'on n'écarte rien, mais qu'en même temps, pour nos enfants,
les conséquences,
on a déjà
vous allez
vu
me dire.
Les dégâts au printemps. Donc, c'est très important de maintenir, quand c'est possible, si c'est possible, le fonctionnement des classes, de permettre à nos enfants de continuer à apprendre. Mais je vous dis, on va évaluer la situation et on prendra des décisions en conséquence.
Restons, Elisabeth Borne, dans les exemples concrets pour ceux qui nous écoutent, les parents d'élèves inquiets qui doivent s'organiser très rapidement. Une mère célibataire qui touche le SMIC et qui ne peut pas télétravailler, si la classe de son enfant ferme, est-ce qu'elle pourrait être en activité partielle et toucher 100% de son salaire ?
Je vous confirme que quand vous êtes payé au SMIC, alors quand vous êtes en activité partielle, vous touchez 100% de votre salaire. Et si vous ne pouvez pas télétravailler, vous avez le droit d'être en activité partielle.
Très bien. Autre cas pour les non-salariés, indépendants, artistes, professions libérales, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent.
Alors pour les professions libérales, pour les indépendants, c'est le fonds de solidarité qui peut vous accompagner. Ce n'est pas l'activité partielle, mais donc il y a le fonds de solidarité pour vous accompagner.
Bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, malheureusement, pour les premières lignes, qui ne peuvent pas évidemment quitter leur poste, rien n'est prévu. Ils restent à leur poste.
Alors, ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur poste, effectivement, enfin, tous ceux qui de toute façon doivent garder leurs enfants peuvent se mettre en activité partielle. Ensuite, on regardera comment on peut les accompagner pour qu'ils puissent poursuivre leur travail.
Et est-ce que ces premiers de corvée, puisqu'on parle évidemment de la vaccination comme solution, devraient être, selon vous, vaccinés plus rapidement ? Et est-ce qu'on devrait prévoir pour ces caissiers, ces caissières, ces premières lignes, une vaccination plus rapide ?
Alors, vous savez que tous les soignants étaient prioritaires dans la vaccination et le président de la République l'a dit récemment. À partir de la deuxième quinzaine d'avril, on aura plus de doses et les professions plus exposées seront effectivement prioritaires pour bénéficier de la vaccination.
Mais voyez, vous dites exposées déjà. Est-ce qu'ils ne devraient pas être paradoxalement pris en charge en priorité ?
Alors vous savez, je pense que vraiment par rapport au printemps, on a beaucoup progressé. Il y a tous ces protocoles
qui s'appliquent.
C'est sûr,
on est parti, oui.
Il y a tous les ports de masques, toutes les règles qui s'appliquent en entreprise qui permettent de protéger les salariés. Mais je pense qu'on leur doit aussi à ces professions qui ont été plus en première ligne ou en deuxième ligne, on leur doit aussi effectivement de pouvoir accélérer la vaccination.
Alors justement, vous parlez de protection. Sur la réforme de l'assurance chômage qui va entrer en vigueur le 1er juillet, selon les calculs de l'UNEDIC, Elisabeth Borne, plus d'un million de personnes, et non pas 800 000 comme vous aviez prévu, pourraient toucher une allocation mensuelle plus faible qu'avec les règles actuelles. Franchement, dans un tel contexte de crise, c'est le moment ?
Moi, je voudrais vraiment dire qu'il est faux de dire que des centaines de milliers, a fortiori plus d'un million de chômeurs, verraient leur allocation baisser au 1er juillet. Il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation baissera début juillet. Il y a des nouvelles règles qui se mettront en place progressivement pour les nouveaux demandeurs d'emploi, mais il n'y a pas un demandeur d'emploi dont l'allocation va baisser.
Bah, elle va être rabotée pour plus d'un million de personnes.
Pour les nouveaux demandeurs d'emploi, bah, au fur et à mesure. Mais je pense que c'est aussi
c'est
une présentation...
Mais ce qui vont devoir payer les conséquences.
Attendez, je pense que c'est aussi une présentation biaisée de ne parler que du montant mensuel de l'allocation. Au total, les droits dont bénéficie un demandeur d'emploi ne baissent pas. Donc si votre allocation mensuelle baisse, vous êtes indemnisé plus longtemps. Et dans la période actuelle, d'être indemnisé plus longtemps, je pense que c'est aussi important. Je peux vous assurer que cette réforme, on en a parlé pendant des mois avec les organisations patronales et syndicales.
Oui, donc vous savez leur opposition.
On vise le meilleur équilibre pour aussi sortir des injustices du système actuel. Un système qui n'a pas empêché la précarité, qui a même, au contraire, permis, ou en tout cas qui a laissé faire une explosion des contrats courts et qui a des règles qui sont très injustes, très inégales entre les demandeurs d'emploi. Et je pense que cette réforme, elle est importante pour rétablir, pour à la fois mieux lutter contre cette explosion des contrats courts et avoir plus de justice entre les demandeurs d'emploi.
Pas de changement de plan. Donc merci Elisabeth Borne de nous avoir accordé cet entretien. Bon retour à vous et prompt rétablissement évidemment. Bonne journée également à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites secondes, un nouveau journal avec Marion Calais et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'information avec Marion Calais.
C'est en quelque sorte un Graal qui permettra de voyager dès le mois de juin à travers toute l'Europe et qui permet d'ores et déjà de retrouver un peu de légèreté à tous ceux qui en ont bénéficié. Mais la vaccination sera-t-elle pour autant la clé de la liberté ? À l'heure où l'épidémie continue de flamber, rien n'est moins sûr. En atteste ce dossier examiné ce matin par le Conseil d'État, celui d'un octogénaire qui aspire à retrouver une vie normale, Marion Dubreuil.
Oui, ce retraité de 83 ans pensait pouvoir enfin se déplacer librement après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin Pfizer. Le nouveau confinement en Île-de-France a été la douche froide, comme l'explique son avocate Diane Prota.
Pourquoi être de nouveau confiné, puisque l'idée de ce vaccin était avant tout de pouvoir ressortir de chez lui et voir sa famille.
L'octogénaire demande que les personnes vaccinées ne soient plus soumises au confinement, une requête argumentée par maître Henri Delagarde.
Les gens vaccinés ne risquent pas d'encombrer les services de réanimation. Et on sait aujourd'hui que les gens qui sont vaccinés sont moins contagieux de plus de 50% que les autres personnes.
Le ministre de la Santé s'oppose à une différence de traitement entre les personnes vaccinées et les autres. Dans un mémoire que nous avons pu consulter, Olivier Véran invoque l'efficacité partielle des vaccins et une efficacité devenue particulièrement incertaine avec l'arrivée des nouveaux variants.
Le dossier de cet octogénaire sera examiné tout à l'heure par le Conseil d'État à partir de 9h. Et alors que le pic de la deuxième vague est désormais dépassé, la ministre du Travail Elisabeth Borne, invitée il y a quelques minutes sur Europe 1, l'assure. Le gouvernement est très attentif à la situation. On n'hésitera pas à prendre des mesures plus restrictives, dit-elle. Le gouvernement, en tout cas, qui se prononcera jeudi déjà sur la tenue ou non des élections régionales en juin prochain. Hier, le Conseil scientifique a plaidé pour la dématérialisation de la campagne ou la vaccination des candidats. Un débat de 80 heures sur Internet, une permanence devant la Assemblée, alors que les députés examinent depuis hier le projet de loi climat et résilience, des débats également hors les murs à l'initiative de parlementaires ou de militants écologistes qui veulent remettre sur le devant de la scène les propositions de la Convention citoyenne. Et en matière de climat, justement, l'inaction présentée comme plus coûteuse que la mise en place de mesures fortes. C'est le résultat d'un sondage réalisé auprès de 700 économistes du monde entier spécialisés sur ces questions. Un coût estimé à 1700 milliards de dollars par an d'ici 2025 si les températures continue de progresser au même rythme.
Mais on va rester optimiste. Je retiendrai ce que me disait mon invité à 7h40 dans le tête-à-tête Europe Matin, Christiana Figueres, qui a participé aux négociations de l'accord de Paris. On n'a pas le choix que d'être optimiste, me disait-elle. Je vais retenir ça pour la journée, au moins. Merci Marion Calais, c'était le journal de 8h30. Nous retrouvons Laurent Cabrol à présent pour un point météo. Et il fait beau. Je le vois d'ici. Hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière extérieure dans le studio, mais je vois un rayon de soleil arriver jusqu'ici, Laurent.
On n'est pas le seul. Je crois que toute la France le voit. Toute la France a un œil sur son ciel. Et votre bout de ciel, chers amis, il est bleu, il est magnifique. Et il restera en l'état tout au long de la journée, car c'est une très belle journée, avec quelques nuages passagers qui sont des nuages de mer, des brumes de mer sur le golfe de Gascogne, le golfe du Lyon. Pardon, mais là c'est tout à fait classique et puis on y est habitué. Bon, c'est pas grave et il fera très beau avec des températures qui vont grimper de manière considérable. L'amplitude est énorme, hein, puisque ce matin nous avions des gelées et cet après-midi nous aurons des températures un peu fraîches là où le vent de mer souffle, c'est-à-dire Perpignan, Montpellier, Nice, Marseille. C'est là qu'il fera le moins chaud, entre 18 et 20 degrés. 21 degrés à Brest et La Rochelle, 22 du côté de Toulouse. Je prends les grandes villes, hein, Caen, Lille, Bourges, Dijon, Rennes, Paris, Belfort, entre 23 et 24 degrés. 24 dans la capitale, 25 à Nancy, Colmar, Lyon, Nantes, Poitiers et Limoges, 26 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux et 28 dans les Landes. Vous prenez n'importe quelle ville des Landes, ce sera autour de 28 degrés. Alors, soyons... Soyons objectifs, ça ne va pas durer. Dans la nuit de jeudi à vendredi...
Oh, le recul, l'élan que vous avez pris pour nous le dire, ça.
Non, j'hésite à le dire. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'air froid revient. Il va revenir par le nord, les températures vont plonger, on en perd parfois 10 degrés. Samedi, il y aura des averses dans le sud et près de la Manche. Dimanche, les températures de 1 à 5 degrés au petit matin. Alors, vous ne tracassez pas. La semaine prochaine, ce ne sera pas terrible non plus. À partir de lundi, ce sont des vents de nord-nord-est et un petit parfum d'hiver. Vous savez, c'est cela, le mois d'avril. Hein. Le mois d'avril, il souffle le chaud et le froid. Et nos ancêtres, je disais tout à l'heure, nos ancêtres n'étaient pas bêtes. Ils disaient en avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, on va suivre nos ancêtres.
On va ressortir les fameuses doudounes, donc. Laurent Cabrol, merci beaucoup. C'était la météo. 8h34. Dans quelques toutes petites secondes, notre santé avec Jimmy Mohamed.
Nez qui coule, éternuement ou conjonctivite, je ne vous parlerai pas de Covid ce matin, mais d'allergies saisonnières. Et vous allez voir que des solutions simples existent, comme par exemple prendre sa douche. Oui, mais pas à n'importe quel moment.
Oui, j'allais dire quand même, on prend nos douches, mais pas à n'importe quel moment. Notez-le bien, Jimmy Mohamed, dans un instant. Notre planète, Fanny Agostini dans la foulée et la revue de presse de Nicolas Canteloup dans 10 minutes. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Belliard.
8h36 sur Europe. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1, c'est Jimmy Mohamed, tous les matins notre santé. Et Jimmy, avec le beau temps, cette
période estivale même que l'on ressent en ce moment, il y a aussi le retour des allergies saisonnières. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que ces allergies sont fréquentes ?
Oui, ces allergies, elles sont extrêmement fréquentes. Cela concerne 25% de la population française. Et ce chiffre a été multiplié par 4 au cours des 30 dernières années. Nous sommes donc de plus en plus allergiques. Alors, il existe plusieurs théories, plusieurs hypothèses pour expliquer cette augmentation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une composante héréditaire forte avec un terrain familial. Si, par exemple, vos deux parents sont allergiques, eh bien, vous avez, vous, à votre tour, 70% de risque de l'être aussi. En ce qui concerne les symptômes, cela va se manifester par ce qu'on appelle la rhinite allergique. Alors la rhinite allergique, c'est très simple, c'est des crises d'éternuement, le nez qui coule ou qui est bouché, les yeux qui grattent ou qui sont rouges, avec ce qu'on appelle la conjonctivite. Alors il faut dire que c'est une infection bénigne, mais le problème c'est que ça entraîne un véritable handicap pour certains, ça va altérer la qualité de vie, notamment dans les formes sévères où certains vont faire des crises d'asthme, les enfants peuvent manquer l'école et ça peut être aussi source d'arrêt de maladie.
Alors, est-ce que vous avez quelques solutions simples à nous proposer, Jimmy ?
Oui, sinon cette chronique n'aurait aucun intérêt. Alors, déjà, tout âge
confondu... On a appris
des
choses, déjà. Non, je ne vous laisserai pas vous dénigrer comme ça. On a appris des choses.
Quel que soit l'âge, les plus forts pourvoyeurs de rhinite allergique sont 1. Les acariens, 2. Les pollens de graminées et 3. Les chats. Pour les chats, c'est facile, il ne suffit de pas en avoir et c'est réglé. En ce qui concerne les acariens, tous les efforts doivent être concentrés sur la chambre à coucher, où on recommande notamment d'éviter les moquettes, les tapis, les peluches, mais aussi de passer régulièrement l'aspirateur. Mais n'oubliez pas que les acariens adorent deux choses. 1, c'est l'humidité et 2, c'est la chaleur. Pour l'humidité, il faut aérer régulièrement pour baisser ce taux d'humidité. Et pour la chaleur, il y a un conseil tout simple, c'est de ne pas surchauffer la température de votre chambre. 20 degrés, grand maximum. En ce qui concerne les pollens, évitez évidemment les promenades champêtres, même si en ce moment on en a envie, en période pollinique. Ce qu'on peut conseiller, c'est de prendre sa douche plutôt le soir. Car si vous la prenez le matin, vous allez accumuler le pollen toute la journée et vous allez en mettre partout dans la maison et sur votre tête d'oreiller et donc être de plus en plus allergique. N'oubliez pas de bien vous sécher les cheveux, ça paraît tout bête, mais les pollens vont plus se fixer lorsqu'il y a de l'humidité. Et puis un dernier conseil tout simple, ne mettez pas le linge dehors puisque à ce moment-là vous allez mettre du pollen partout et puis surtout aérez comme je vous ai dit, mais à deux moments stratégiques, très tôt le matin et très tard le soir. 1, vous allez éviter la pollution et 2, vous allez éviter les pollens qui vont rentrer partout.
Parce qu'il y a moins de pollen dans l'air à ces moments de la journée, Jimmy. C'est pour ça, d'accord. Et petite question, alors peut-être que c'est une question bête, hein, mais en ce moment on est tous masqués. Ça a un impact sur les allergies, pour les allergies.
Oui, c'est une bonne remarque, Mathieu. Vous avez raison. Je pense que malgré tout, on a moins de pollen qui vont rentrer dans la sphère ORL par le nez, par la bouche. Donc peut-être qu'on va aussi limiter un peu les symptômes comme ça. Le masque ne sert pas que contre le Covid.
Eh bien, on surveillera, on regardera en fin de saison. Merci, Jimmy Mohamed. Notre santé et sans rendez-vous de 15h à 16h avec Mélanie Gomez, évidemment. Jimmy, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
On va parler de médecine de précision en cancérologie avec un coup de projecteur sur un projet baptisé Prisme. L'objectif est simple, innover pour sauver plus de vies.
A tout à l'heure, 15h sur Europe 1. Merci Jimmy Mohamed, 8h39. Notre planète, c'est avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, ce matin, vous nous parlez de la montée en puissance des éco-banques.
Oui, ce sont des banques qui orientent l'épargne vers le financement de la transition écologique. C'est le cas de la banque Helios. Je vous parle d'elle parce qu'elle a vu le jour très récemment, en ce mois de février. C'est une éco-banque qui finance exclusivement, et j'insiste sur ce point, exclusivement des projets qui contribuent à la transition écologique, comme la mobilité durable, les énergies renouvelables ou l'agriculture biologique, avec comme garantie la transparence, c'est-à-dire que chaque usager peut voir en temps réel où son épargne bancaire est placée.
Entre nous, Fanny, ça reste une solution pour les particuliers qui ont du capital à investir, non ?
Eh bien non, figurez-vous, le compte courant, celui qui concerne nos flux réguliers de dépenses, est lui aussi une source dans laquelle les banques puisent pour investir. Et 11% de l'épargne des Français se situe sur ces comptes courants. Or, comme c'est un compte qui est censé être réactif parce qu'il est souvent débité, les banques utilisent majoritairement ces fonds qui sont dessus pour financer des projets qui rémunèrent vite. Et ça, c'est synonyme souvent de projets polluants la plupart du temps. Donc, en fait, même si on n'a pas d'épargne dans des comptes de placement bancaire, c'est déjà intéressant de déplacer son compte courant dans une banque qui offre la garantie de la transparence pour financer des projets durables. Ça veut dire que même les personnes les plus modestes peuvent contribuer.
Des projets de financement durable qui foisonnent depuis quelques années.
Alors, soyons plus exacts. Des branches de financement durable au sein de banques internationales, oui, il y en a pléthore. Mais attention, tout ne se vaut pas. Déjà, les critères dont se servent les branches de financement durable des grandes banques sont souvent des seuils. Exemple, si 15% de l'activité d'une entreprise est polluante, on refuse de la financer. Mais du coup, une entreprise dont seulement 14% de l'activité est polluante passe à travers les mailles du filet. Ensuite, même si une partie des financements de ces grandes banques est orientée vers des projets durables, faut le dire, hein, la majeure partie va vers des projets explicitement polluants. C'est ce double problème qui motive les écobanques à exclure méthodiquement de ses bénéficiaires toutes les entreprises qui n'ont ne serait-ce qu'un petit fragment d'activité polluante. Alors il y a la banque Helios que vous pouvez retenir, mais aussi les banques comme Only One et Gringotts qui sont deux nouvelles banques qui offrent aussi la possibilité d'ouvrir des comptes courants ou de faire des placements verts. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, mais on retrouve évidemment les deux coopératives de référence, la NEF, qui est une actrice de longue date en matière de finance éthique, et aussi le Crédit Coopératif. Donc vous avez aujourd'hui l'embarras du choix pour être sûr que votre argent ne soit pas mal utilisé dans votre dos.
Merci Fanny Agostini, très pratique. Ce matin, notre planète, tous les jours, je retiens la NEF, NEF, le Crédit Coopératif, et puis les petites nouvelles, vous disiez Helios, Only One et Gringotts.
Only One
voilà.
Et Gringotts.
Fanny Agostini, c'est complet, notre planète tous les matins sur Europe 1, 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, de la revue de presque avec Nicolas Canteloup qui arrive et Julie qui est déjà installée bien sûr.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h44, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard pour les infos du jour. Mathieu.
Et oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde, le monde n'a pas trop changé en fait. L'info du jour, c'est que la solution pour désengorger les hôpitaux pourrait être de généraliser l'hospitalisation à domicile. Et oui, les Français sont devenus de plus en plus sédentaires, feignants, faut dire le mot, avec le confinement. Rendez compte, même les malades ne veulent plus bouger de leur canapé pour aller à l'hôpital. Ouais. Allez, l'autre info, c'est que 8 Français sur 10 se disent déprimés par la fermeture des théâtres et des cinémas.
Ah bah oui.
Les deux autres sont en réanimation et n'ont pas pu répondre. L'autre info, oui, parce qu'il y a plein d'infos, parce qu'en fait, c'est une matinale d'infos. L'autre info, c'est ce retraité de 83 ans qui vient de saisir le Conseil d'État et demande à ce que les gens vaccinés ne soient plus confinés à 19h. Ok, pourquoi pas, mais la question que je pose, Julie, c'est quand même une vraie question.
Quoi?
À 83 ans, on traîne encore dehors après 19h. Il est louche, monsieur.
Très louche, mais merci.
Le surveiller, quand
même. Merci, Mathieu. À demain. Jean Castex est avec nous maintenant. On va revenir sur les rumeurs d'annonce de demain. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est le président qui va parler demain?
Secret défense.
Ah.
Non, je peux pas vous le dire, non.
Bon, au moins un petit indice hein, sur ce qui va être annoncé, dites-moi.
Secret défense.
Oh là là.
Vous savez, écoutez, Madame Julie, il faut comprendre les choses. Il y a des décideurs. Ces choses se décident au plus haut niveau. Hein, donc modus et bouge cousu.
Mais vous le savez au moins.
Pardon, non.
Non, vous savez rien.
Je n'en sais rien, aucune idée. Je vous ai précisé que ces choses se décident au plus haut niveau.
Oui.
Moi, je suis au plus moyen niveau. Vous voyez je suis juste en dessous. Mais bon, vous commencez à connaître le principe. Hein, si le président la République parle, c'est pour une annonce historique, marquante, impactante. S'il m'envoie moi, c'est que ce sera donc des mesures incompréhensibles, mal foutues, voire risibles, voire même mal branlées. Voilà. Oui, écoutez-moi, on se comprend. C'est un peu notre duo avec le président de la République, bad cop. Voilà, vilain policier, gentil policier.
Oui, mais on dit good cop, bad cop.
Ah oui, non, mais demain, il n'y aura rien de good, rien de bon, ne vous attendez pas du bon, non, il n'y aura pas de good de
il
n'y
aura
de
pas
good
de good,
du tout.
Ah bon, bah écoutez,
pas de good.
Dites-moi, l'hôpital est au bord de la rupture, du coup, une nouvelle solution est proposée, on parle d'oxygénation à domicile, mais les médecins n'ont pas l'air ravis.
Hein. Les médecins n'ont pas l'air ravis. C'est fou, est-ce que vous êtes, pardonnez-moi de vous interpeller,
quoi?
Mais est-ce que vous êtes négatif? Mais pensez positif,
oui, bon.
Système D, comme Decathlon, hein, vous allez, vite, Decathlon, vous allez chez Decathlon.
Oui.
Vous allez au rayon plongée sous-marine, deux bouteilles d'oxygène dans le dos, et hop, voilà, vous sauvez mamie et vous aurez un parfum de vacances quelque part. Hein, c'est quelque part les Maldives à Dijon,
oui, bien hein, sûr.
À fond la forme. Et n'oubliez pas que tout est possible. Mais tout est possible, bien sûr. Je suis bien Premier ministre.
Ah, c'est pas faux ça. Merci Monsieur Castex.
Vive, vive.
Les femmes grandes oubliées du plan de relance. Un rapport de la Fondation des femmes constate que les bénéficiaires des 100 milliards d'aides pour relancer l'économie ira principalement au secteur où les hommes sont majoritaires.
100 milliards pour les hommes, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais oui, girl power. Je le dis, femme de France, mais rebellez-vous, levez-vous, c'est le temps de la révolution. Hein, à cause de tous ces sexistes, on aura votre peau, les sexistes. Fuck Pierre Ménès.
Fuck Pierre Ménès. Bon, Ségolène Royal, attendez, parce que ces 100 milliards vont principalement profiter à l'économie verte pour préparer la transition écologique. Sauf que dans l'économie verte, gestion de l'eau, des déchets, agriculture bio, construction, ingénierie, transport, etc., ben, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Ah oui ? Oh merde. Oui, non, mais alors comment je fais dans ces cas-là ? Parce que là, vous êtes en train de dire que les femmes travaillent dans des secteurs de commerce et des services, des trucs qui polluent, quoi, c'est ça ? Ben oui, mais moi, comment je fais ? Je suis emmerdé, là. Hein ? Là, là, si c'est la femme qui pollue et l'homme qui va sauver la planète, ça va pas, là. Je suis emmerdé sur mon... sur mon diatribe.
Ben, c'est comme les véhicules électriques hein, que vous aimez tant. En fait, ils polluent énormément. Mais comme ils consomment beaucoup d'électricité, bah, faut des centrales si on veut le tout électrique.
Oui, oui. Bon, mais oh, c'est bon, là. Voilà, c'est... Bon, vous allez arrêter de m'emmerder avec des dilemmes sur lesquels on n'a pas de solution. Il n'existe pas un scénario, je ne sais pas, moi, je suis présidente, j'aime les femmes et je sauve la planète et les bébés fauques. Hein, franchement, cette vie est mal foutue.
Ah, ben bon courage, Ségolène Royal.
Merci.
Allez, on va parler des travaux dans Paris. Tiens, bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour. Bonjour aux Parisiens et à toutes les Parisiennes qui nous écoutent, mais aussi aux ploucs, aux Français, pardon, que j'aime d'ailleurs de plus en plus.
Ah, vous aimez oui, les Français,
oui. Ah oui, plus 2022 va approcher, plus je vais les aimer d'amour, les Français hors Paris.
Et d'accord, du coup, on ne parle pas de Paris, alors c'est déjà fini. Bon, bah écoutez, merci Anne Hidalgo.
Si. Ah oui, ben c'est fini
bah, tiens,
alors.
Bah, oui. Faut-il fermer les écoles ? Le débat fait rage. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Oui, bonjour ma chère Julie, puisque j'ai plus d'espace, puisque Mme Hidalgo s'est retirée. Et bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard.
Bonjour.
Écoutez, sur la fermeture des écoles, il faut être très clair. Il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui veulent fermer les écoles et il y a l'école de ceux qui ne veulent pas fermer les écoles. Mais si on ferme les deux écoles, qui va fermer ou pas les écoles ? On n'y comprend plus rien du tout.
Alors, mais pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise. Et pourquoi alors ?
Écoutez, c'est incompréhensible, surtout quand on sait que les enfants sont fortement transmetteurs du virus. Vous savez, aujourd'hui, avoir un enfant chez soi, mais c'est dangereux, dangereux, dangereux. Chaque enfant, il faut le savoir, mon cher Mathieu, a le pouvoir de tuer 3 ou 4 personnes. Avoir un enfant à la maison ou dans son garage, vous avez votre espérance de vie qui baisse de 14 ans. Et même dans la rue, si vous voyez un enfant, ne vous en approchez surtout pas, c'est le message grand aux auditeurs. Ne vous approchez pas des enfants, ne les laissez pas vous approcher de vous. Jetez-leur des objets, des pierres pour les éloigner. On ne sait jamais. Si vous faites un câlin, vous êtes foutus.
Non, mais arrêtez, mais ça vire à la psychose, là. Qu'est-ce que vous nous faites ?
Mais rigolez, rigolez. En tout cas, moi, je ne m'approche plus de mes petits-neveux sans une combinaison anti-radiation. Comme ça, je vous le dis, je ne risque rien, 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 rien.
Merci Jean-Michel.
J'ai pas d'enfant dans le garage.
Ah non, non, non. On sentait bien que c'était pour vous, oui, mais bon. Oui. Comment convaincre les Français de dépenser leur épargne pour relancer l'économie ? Bruno Le Maire, le ministre, veut favoriser les donations entre générations. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Écoutez, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. On le sait, les vieux planquent du pognon dans les boîtes de boudoir, dans les matelas, dans les nécessaires à couture, mais ils ne dépensent que dalle. C'est pas bon pour le commerce. Tu penses, les vieux, une fois qu'ils ont payé leur viandox, leur stéradin et leur pruneau, ils sont contents pour l'année. Hein ? Et le pognon qui reste, mais je vais vous dire une chose, il dort le pognon.
Ouais, mais enfin, c'est un peu abrupt comme analyse.
Et oh, ça va, hein, ça va. Hein, on a détruit l'économie, hein, L'économie entière française pour accorder quoi ? 6 mois de sursis à papy et à mamie. Hein, ils vont pas gueuler parce qu'on leur demande de faire un petit effort pour lancer un peu la machine, non ?
Non, mais on voit l'idée quand même. Hein.
Oui, on voit l'idée. Bon, bah toujours est-il que nous, on peut pas taxer ce pognon-là. Alors, j'ai une idée de génie.
Ouh là là, on est inquiet.
C'est les jeunes qui vont taxer leur fric à leurs grands-parents. Hein, je lance un appel. Les jeunes, yo les frérots, oh Zarma, vos yeuves, ils sont pétés de thunes. Faites-leur cracher la grosse moula, là. Wesh, c'est défiscalisé, ma gueule.
Oh là là.
Et ensuite, faites-vous plaisir. Claquez de la thune, réinjectez l'argent à l'économie réelle comme des gros bâtards. Mmh. Voilà. Je pensais que ça va séduire les jeunes qui nous écoutent, mon discours.
Ouais, bon, écoutez, je suis sceptique.
Mais moi, il y a un concept, en tout cas. Ouais. Hein. Dans la bouche de Bruno Le Maire, c'est quelque chose.
Un concept. En même temps, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de jeunes qui écoutent Europe 1, c'est ça que vous voulez dire entre eux. J'aurais dû leur faire mon message sur Skyrock entre Maître Gims et La Fouine.
Alors Bruno Le Maire, vous savez ce qu'on va faire ? Ouais. Vous et moi, on va aller les chercher, les jeunes.
Ouais, très bien. Ouais, toujours volontaire. Il est corporate, hein, ce Mathieu. Allez, Zarma, faut en faire des trucs de dingue pour relancer l'économie.
Oh, comme vous dites, allez, merci Bruno Le Maire. Et on termine avec, toujours le Covid, le pic de la deuxième vague est dépassé. 4974 patients sont actuellement admis en réanimation alors qu'ils étaient 4903 au pic de novembre.
Oui, tout à fait, mon cher Julie, mon cher Mathieu, record battu. C'est un record même pulvérisé que nous avons là. 4974 patients, vous l'avez rappelé, Julie, en réanimation. Rendez-vous compte, on arrive à faire pire qu'en novembre alors qu'on a eu 5 mois pour anticiper. Jean Castex, le Premier ministre, est avec nous. Jean, permettez-moi une interview. Jean, s'il vous plaît, juste une interview, juste quelques mots. Comment expliquer vous ce score? How do you do explain all the bordel? Ah, écoutez, deux interventions dans la même matinale. Écoutez, monsieur Bonfort, c'est le résultat de travail de toute une équipe. Je crois qu'on a bien mis en place les conseils du coach Emmanuel Macron. On n'a pas lâché, on a persisté et ça donne voilà, ce résultat collectif. Alors écoutez, on sent la patte de l'entraîneur. L'important pour vous, je suppose que c'est de ne pas reculer, de ne pas surtout fermer le jeu. C'est cela, sergent Castex? Voilà, ne pas fermer le jeu, ne pas fermer les écoles, ne pas fermer les collèges. On laisse ouvert, mais ouvert. Oui, oui, grand ouvert, même si les scientifiques nous disent tout le contraire depuis des semaines. On insiste, on insiste, on insiste. Je crois que c'est ça, notre marque de fabrique. Ne jamais douter et être content de nous. Ça, on est les seuls à se trouver super. Je vous le dis. Oui, tout à fait. Vous l'avez entendu, M. Gilles, mon cher Mathieu. Ne pas douter, ne pas se remettre en question et se trouver super. Voilà le secret pour obtenir ce score inouï de 4974 patients en réanimation. Et ce record pourrait encore être battu dans les heures à venir. Quelle équipe nous avons au sommet de l'État, ma chère Julie, quelle équipe ! À vous les studios, à vous Julie, à vous Paris !
Bravo Nicolas Canteloup et ses auteurs. Oui, déchaîné Nicolas sur toute la longueur. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. La revue de presse qui est à réécouter avec Nicolas et Julie sur Europe1.fr. 8h56. Culture Média, c'est la matinée qui continue. Philippe Vandel nous a rejoint en studio.
Mais oui.
Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre info média du jour, c'est une colère, celle des scénaristes qui dénoncent des conditions de travail très difficiles entre les abus de pouvoir, la réappropriation des œuvres et la précarité financière. En résumé, ils demandent plus de considération pour leur métier. Mais comment y arriver ? Eh bien, réponse avec la présidente du syndicat, la Guilde française des scénaristes, c'est Marie Roussin, et une scénariste de dessin animé, Sophie Lodwitz. Au sommaire également de l'éloquence avec la troisième édition du Grand Oral de France 2. C'est plus Laurent Ruquier qui présente, mais il est dans le jury. C'est présenté par Leïla Kadour. Elle sera avec nous en compagnie du producteur Clément Chauvin. Il promet du neuf. Il va nous dire comment. Et puis l'acteur, réalisateur Tarek Boudali, vous le connaissez, de la bande à Fifi.
Oui.
Il sort son film 30 jours max en DVD. En 2020, ils sont restés seulement 2 semaines au box-office. Ils ont fait 1,2 million d'entrées.
En 2 semaines ?
En 2 semaines. C'est quand même assez dingue. C'était le deuxième meilleur score après Tenet de Christopher Nolan. Mais qui avait beaucoup, beaucoup de salles. Ensuite, le président Macron a fermé les salles. C'est ça le génie français. Et là, le film sort en DVD. C'était pour faire référence à Nicolas Canteloup.
Évidemment, et à la culture que vous traitez tous les... La référence en termes de culture et de médias, c'est Culture Média. C'est
exactement.
Philippe Vandel de 9h à 11h sur Europe 1, bien sûr. Je vais vous laisser. Enfin, je vais aller. Vous savez quoi ? Je vais aller dans le bureau juste à côté pour écouter Culture Média tranquillement.
C'est vrai en plus parce que je peux le voir par le hublot. Je vois s'il est là, s'il écoute ou pas.
Et je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.